Je suis dans l'évangile de Matthieu, de Luc, va rappeler une prophétie dans l'évangile de Luc au chapitre 4. C'est pas notre lecture de ce jour, mais il va rappeler qu'il est venu ouvrir un temps de grâce. Ce temps de grâce, c'est-à-dire que c'est un temps où Dieu ne veut plus tenir compte du péché des hommes, mais il veut leur donner l'occasion de se réconcilier avec lui. Voilà. Et c'est vrai que la Bible dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la conséquence du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que le péché, c'est le fait d'être passé à côté de ce que Dieu a voulu pour nous. Et quand on passe à côté, c'est parce qu'on n'a pas voulu. Voilà. Alors, je vais vous inviter cet après-midi à ouvrir avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Et nous allons lire là une histoire qui nous est rapportée ici. Hein? Marc chapitre 5. Verset 21, il est dit ceci, « Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, c'est-à-dire la mer de Galilée, qu'on appelle aussi la mer de Tibériade. Alors, vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, c'est-à-dire responsable juif, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, dans cette foule, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Voilà. Dans ce que nous venons de lire, il y a deux histoires. L'une concernant une famille et l'une concernant une femme seule. Et quand nous examinons de près cette histoire, ces deux histoires se passent il y a 2000 ans. Voilà. Et quand on va regarder un peu de plus près ces histoires, on se rend compte que en ce qui concerne l'histoire de l'homme, aujourd'hui encore, on rencontre les mêmes problématiques. Que ce soit pour la famille ou que ce soit pour des personnes seules. Alors, ce qui peut nous amener à comprendre qu'il y a quelque chose dans le monde qui fait que, quelles que soient les années, et que malgré les dizaines, les centaines, les millénaires qui sont passés, l'homme se retrouve toujours confronté au même problème. Malgré l'avancée des découvertes scientifiques qu'on peut avoir aujourd'hui, le progrès technologique, on est capable d'aller dans l'univers, de marcher sur la Lune, mais on est dans l'impossibilité, si je puis m'exprimer comme ça, de répondre à certaines problématiques en ce qui concerne l'homme. Or, cette expérience vécue peut être aussi le nôtre ce soir. Et je crois que c'est la volonté de Dieu. Nous avons entendu tout à l'heure les témoignages d'Olivier, nous avons entendu le témoignage de Jonathan, ce qui montre que ce qui s'est passé avec Jaïrus et cette femme dont il ne nous est pas rapporté le nom, c'est quelque chose que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et c'est ce vers quoi j'aimerais nous conduire cet après-midi. Parce que nous sommes dans ce temps où Dieu veut faire grâce. Où Dieu nous accorde grâce. Où Dieu a ouvert dans l'histoire de l'humanité la possibilité à l'homme, eh bien, de vivre de cette grâce. Et nous voyons cette grâce se manifester dans la vie de cette famille, mais aussi de cette femme. En ce qui concerne cet homme, Jaïrus, nous l'avons lu, il nous est rapporté que c'est un responsable religieux. Et quand on lit les évangiles, on sait combien les responsables religieux sont contre Jésus. Parce qu'ils n'entraient pas dans le moule de ce qu'ils avaient prévu en ce qui concerne le Messie. Et nous réalisons à l'heure d'aujourd'hui que c'est toujours le même cas. Pourtant, dans nos religions, si je peux dire, on parle de Dieu, on parle de Jésus. Et en même temps, il y a une résistance. Mais cet homme, hier quand on a distribué, on est sorti pour distribuer des invitations, Il y a un monsieur qui nous a dit si gentiment, hein, voilà. Voilà, j'ai vécu dans cette religion, voilà. Je ne le pratique plus aujourd'hui, mais j'y étais. Voilà. Mais nous, on n'était pas partis inviter les gens pour entrer dans une religion. Tout ce qu'on voulait, c'est que les gens connaissent Jésus. Voilà. La religion en elle-même n'apporte pas, mais c'est Jésus qui change, qui transforme les vies. Hein? Et c'est vrai que si on regarde l'histoire de la religion, il y a bien des déceptions. Voilà. On est complètement déçu de ce qui s'est passé. Mais ça, c'est la religion. Mais Jésus et la religion, ça fait deux. Moi, je vous parle aujourd'hui de Jésus. Je ne vous parle pas de la religion. Hein? Je ne vous invite pas à rentrer dans une religion, à vous saisir des règles de vie d'une religion. Je vais simplement vous parler de Jésus. Et d'ailleurs, les deux frères, quand ils ont parlé tout à l'heure, ils ont parlé de Jésus. Voilà. Parce que c'est Jésus qui peut. C'est Jésus qui peut changer. C'est Jésus qui peut transformer une vie. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, en étant sur la terre des hommes, aujourd'hui encore, il peut le faire parce qu'il est toujours vivant. Voilà. Dans cette histoire, il y a un aspect que je voudrais relever avec nous. C'est que lorsque le Seigneur est allé chez Jaïrus, il a pris avec lui trois témoins, Pierre, Jacques et Jean. Et le père et la mère de la fille. Et quand ils sont arrivés dans cette maison, nous l'avons lu ensemble, quand le Seigneur leur dit « Pourquoi pleurez-vous? Cette fille n'est pas morte, elle dort », ils se sont moqués. Et vous savez ce qu'il a fait des moqueurs? Il les a mis dehors et ne sont entrés avec lui que 5 personnes, si nous lisons les Écritures, et ils ont été témoins de ce qui s'est passé, la résurrection d'une fille. Et je voudrais cet après-midi nous amener tous, autant que nous sommes, à être témoins de quelque chose dans notre vie. On peut être témoin comme ce père et cette mère en ce qui concerne quelqu'un qu'ils aiment, leur fille. Mais on peut aussi être témoin à titre individuel, comme cette femme qui se dit, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. Elle était venue d'une manière anonyme. Parce que si elle était venue d'une manière ouverte, certainement qu'on lui aurait refusé l'accès, parce que là également, je n'aurai pas le temps de vous expliquer cet après-midi, mais sa religion l'empêche d'être en contact avec les autres parce qu'elle a une maladie qui, au niveau de sa religion, est impure. Mais cette femme, elle a dépassé tous ces obstacles. Et elle s'est dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Si elle avait été reconnue, certainement ça aurait été une lapidation. Voilà. Si vous voulez savoir un peu plus en ce qui concerne cette maladie, je me tiens à votre disposition tout à l'heure pour vous l'expliquer un peu plus en détail. Voilà. Mais ce n'est pas le propos de ma prédication cet après-midi, mais ce que je voudrais surtout, c'est que, chers amis, frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons témoins dans notre vie de ce que le Seigneur veut faire. Mais le Seigneur veut également que nous soyons témoins de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre, parce que cet après-midi, on aura crié vers lui en faveur de cette personne qu'on aime. Vous savez comme moi, vous lisez, vous regardez, vous entendez l'actualité, jamais la famine n'a été autant l'attaque dans ces temps derniers. Je ne veux pas venir sur... Mais c'est pour dire que Dieu est le Dieu de la famille. C'est lui qui a réuni le premier homme et la première femme pour en faire une famille. Et la famille, c'est le socle de la société. Lorsque la famille est déstabilisée, détruite, la société va complètement de travers. Parce que la société commence dans la famille. Mais notre Dieu, qui est l'auteur de la famille, veut secourir toutes les familles qui se tournent vers lui. Ce père et cette mère sont dans la détresse en ce qui concerne leur enfant. Combien de parents dans ce temps où nous sommes, eh bien, ils sont en détresse concernant leurs enfants. Que ce soit parce qu'ils sont sous l'emprise de la drogue, de l'alcool ou de beaucoup d'autres choses à cause des fréquentations, il y a des parents qui sont dans la détresse et qui ne savent pas comment faire. Mais cet homme, Jaïrus, dans cette situation de détresse, il a surpassé l'obstacle de la religion, il a mis de côté sa position de responsable et il s'est dit, je veux que ma fille soit sauvée. Il y aura toujours un prix à payer pour vivre l'intervention de Dieu. Non pas parce qu'il faut payer quelque chose, mais il y aura toujours un effort à faire. Et je voudrais nous amener cet après-midi à vivre cette expérience de Jaïrus. Il est venu, il s'est prosterné devant Jésus. Il a demandé le secours de Dieu. Il a cherché le secours de Dieu. Il a imploré le secours de Dieu. Et la Bible nous dit que le Seigneur est allé avec lui dans sa maison. Peut-être avez-vous un membre de la famille que vous aimez, mais dont vous assistez impuissant, que ce soit à la maladie, à la souffrance, à la déchéance, je ne sais, à l'extrême comme cette fille. Et malgré tous les efforts que vous faites, vous voyez que ça ne mène à rien. Je voudrais vous inviter cet après-midi à faire comme cet homme. Là où vous vous trouvez, en ce moment même où je suis en train de vous parler, vous pouvez crier à Dieu. Et le secours de Dieu ne manque pas pour celui qui crie vers lui. Peut-être, et aujourd'hui encore, nous voyons que combien de familles sont divisées. C'est aujourd'hui devenu comme une banalité, mais que de souffrance. Quand une famille est brisée, quand un homme et une femme qui s'aiment et qui au bout de quelques années vont se séparer, il y a forcément de la douleur et de la souffrance. Et encore plus lorsqu'il y a des enfants. Quelle souffrance! Il y a 30 ans, mon épouse et moi, nous étions dans une phase difficile de notre vie, tellement difficile parce qu'on ne s'entendait plus, qu'on s'est dit, on va se séparer. Alors, on a déjà partagé les enfants, mais on continue de vivre ensemble, faire comme si devant tout le monde. Jusqu'au jour où un chrétien, une chrétienne a invité mon épouse. Nous sommes allés à l'écoute de l'Évangile. Et Dieu a restauré notre vie de couple. Et c'est ce qui fait que 34 ans plus tard, je suis ici en train de vous parler de Jésus. Parce que j'ai été témoin de ce que le Seigneur a fait dans ma propre famille. Et la Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a jamais de cas trop difficile. Dans cette situation, il nous dit, des gens sont venus lui dire, ta fille est morte, c'est trop tard, c'est fini. Il y a des situations, parfois on dit, ah non, c'est fini. C'est avant qu'il fallait. Sinon maintenant c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Je voudrais vous amener à vivre l'expérience du possible avec Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce qu'à notre Dieu, rien n'est impossible. Voilà. Et quand dans notre petite tête, on fait les calculs, on se dit, on envisage toutes les possibilités, les chemins, etc. On se dit, on voit déjà, non, ça ne marchera pas. C'est l'occasion de remettre cela entre les mains de celui qui nous a créés. Alléluia. Je me souviens d'avoir lu une histoire concernant une voiture qui est tombée en panne. C'est une Ford. Mais il y a quelques années, bien en arrière, hein, quelques centaines d'années, je pense. Au début, quand le constructeur, il a créé. Cette voiture est tombée en panne, et malgré que le mécanicien, il a essayé. Voilà. Et puis, il est arrivé dans ce garage, un monsieur, et puis il dit, écoutez, est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Est-ce que je peux regarder? Et puis, les personnes, ils ont dit, mais ça y est, on a essayé avec le mécanicien, il est... Et ce monsieur, c'est monsieur Ford. Et il dit, c'est moi le constructeur de la voiture. Voyez? Alors, quand on invite Dieu, qui est notre créateur, à intervenir dans nos problèmes et dans nos problématiques, c'est lui qui sait comment, mieux que nous-mêmes. Il y a des chemins que nous ne connaissons pas, mais... Dieu qui est notre créateur, il est au-dessus de tout et je voudrais vraiment cet après-midi vous amener à vivre cette expérience, à être témoin de ce que Dieu fait. Peut-être avez-vous une relation qui ne marche plus depuis des années ou quelque temps, c'est difficile, on essaie de recoller les morceaux, mais ce n'est pas possible. Je voudrais vous inviter cet après-midi à faire vraiment cette expérience, de dire, Seigneur, j'ai tout essayé, c'est mort. Mais puisque tu me dis cet après-midi, alors je vais essayer. Hein? On pourrait encore continuer des exemples en ce qui concerne la famille, mais je crois que vous avez compris. Voilà. Même si la famille, la personne est loin. Ici, ce qui concerne cette fille, quand les parents sont venus implorer le Seigneur, elle n'était pas là. Mais le Seigneur a dit, je vais y aller. Comme ce centenier romain qui a dit au Seigneur, dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur a dit à cet officier, va et qu'il soit fait selon ta foi. Et quand cet homme est arrivé chez lui, son serviteur était guéri. Voilà. Je ne sais pas quel est le cas extrême dans lequel vous vous trouvez, où la personne que vous aimez se trouve, mais je voudrais cet après-midi, au travers de ces passages, vous dire qu'avec Dieu, tout est possible et envisageable. Également, en ce qui concerne cette femme, On ne sait pas si cette femme, elle avait une famille. Il y a des gens comme ça. On en trouve sur les trottoirs. On ne sait pas s'ils avaient une famille, s'ils ont encore une identité. Mais cette femme s'est dit dans sa détresse, si je puis seulement toucher le bord de cette veine. Et dans l'histoire des Écritures, c'est le seul exemple. C'est cette femme qui l'a vécu. Mais si la Bible nous le rapporte, c'est que nous pouvons vivre. C'est que cette femme s'est dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, malgré les interdictions par rapport à la religion, elle est passée au-dessus de tout ça et elle se dit, je veux toucher le bord de son vêtement. Et pourtant, lorsque nous commençons à lire cette histoire, il dit que la foule, eh bien là, elles attendaient. Vous voyez, une foule, c'est beaucoup plus que nous cet après-midi. Hein? Voilà. Et quand on regarde les évangiles, on voit que c'est quelques milliers généralement qui sont là, qui attendent le Seigneur. Et pourtant, dans cette foule, il n'y aura qu'une seule qui vivra cette expérience. Pourtant, tous l'attendent. Tous l'accompagnent, tous sont avec lui, tous ont entendu son enseignement, mais une seule. Et je voudrais cet après-midi vous dire que l'expérience de cette femme, vous pouvez vivre là où vous êtes. Cette femme, ce n'est pas une extraterrestre, hein? C'est une femme de la même nature que nous. Voilà. Cette femme, elle nous a dit, qu'à cause de cette maladie qu'elle a, eh bien, elle a été voir plusieurs médecins. On ne sait pas combien. On se rend compte que dans notre siècle, malgré toutes les avancées scientifiques, etc., il y a des gens qui ont vu plusieurs médecins, mais ça ne va pas toujours mieux. Alors, je ne suis pas en train de critiquer les médecins ici, hein, mais je veux dire que cette histoire, elle s'est passée il y a 2000 ans et aujourd'hui, même avec les avancées scientifiques, technologiques, il y a des gens, des milliers de gens, peut-être même des milliards de gens qui se retrouvent dans cette même situation. Ces médecins étaient-ils des arnaqueurs? Je n'en sais rien. Mais la Bible nous dit que son état n'est pas allé de mieux en mieux. Au contraire, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et je suis sûr que si on sortait et puis on commençait à pianoter sur Internet pour chercher des gens qui sont dans la même situation que cette femme, qui ont perdu tout parce qu'ils ont voulu être guéris, il y en aurait quelques centaines de milliers. Vous voyez? Et cette femme est privée de la vie de famille, est privée de relations avec les autres. Mais combien dans ce monde, ils en sont ainsi? Et sa situation va de mal en pis. Tout à l'heure, Olivier nous dit, bon, j'ai commencé à vivre de mes économies, mais quand les économies sont arrivées à la fin, j'étais à l'extrême. Alors j'ai crié vers Dieu. Et je pense que c'est à peu près le même cas que cette femme. Je ne sais pas combien d'argent elle avait au départ, mais tout ce qu'elle avait, elle a misé parce qu'elle veut être guérie. De quelle maladie vous êtes atteint? Quand on regarde les évangiles, la Bible nous rapporte que tous ceux qui étaient malades, qui venaient à Jésus, ils étaient guéris. Et la Bible nous dit, et nous allons l'exécuter tout à l'heure, Marc chapitre 16, verset 15, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » On n'a pas de puissance dans les mains. Mais il dit, ils imposeront les mains aux malades en mon nom. C'est-à-dire que la maladie reconnaît l'autorité et la puissance de Dieu. C'est ce que nous ferons tout à l'heure. Nous inviterons ceux qui sont malades à s'approcher et qui veulent vivre cette expérience. Nous prierons tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'incantation, c'est une prière simple au nom de Jésus. Voilà. On ne fait qu'obéir. Mais on n'a pas de puissance ni d'autorité soi-même. C'est le Seigneur qui a accompli le miracle. Et cette femme, elle va être... Elle dit qu'à l'instant même où elle touche le bord du vêtement, elle sentit la guérison s'opérer dans son corps. Et lorsque Jésus cherche à savoir qui c'est, cette femme vient toute tremblante se déclarer devant lui et le Seigneur de lui dire, « Ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. » Pourtant, je viens de vous le dire là, les frères et sœurs, les amis, vous qui êtes ici, qu'il dit que quand elle a touché le bord du vêtement, elle a été guérie. Mais le Seigneur de lui dire, va en paix. Certainement que cette femme, comme elle était tellement à l'extrême, et généralement quand les gens sont à l'extrême, ils ne sont plus en paix. On a un peu perdu la notion des choses, on est déstabilisé, on ne sait plus en quoi il faut croire, il faut penser, il faut... Voilà. Et le Seigneur dit, va en paix. Je voudrais que quand vous allez ressortir de cette salle, vous partiez avec la paix de Dieu. Que Dieu s'occupe maintenant de votre vie. Vous avez vécu tout seul, vous vous êtes débrouillé tout seul, malgré... Hein, je voudrais, cet après-midi, vous dire combien Dieu veut vous accorder la grâce de s'occuper de votre vie. Et il va dire également, sois guéri de ton mal. Et pourtant, nous l'avons lu, elle a été guérie. Mais le Seigneur lui dit, va en paix et sois guéri de ton mal. C'est-à-dire, moi, en tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Et c'est qu'il y a un autre mal qui est là. Et c'est de ce mal également que je veux vous parler. Non seulement le Seigneur, il a le pouvoir, l'autorité, la puissance d'intervenir dans votre corps, quelle que soit la maladie que vous avez, quelle que soit la situation dramatique qui vous cause des soucis, des fardeaux, des nuits blanches, etc. Le Seigneur, il peut, il est capable, il est puissant pour accomplir le miracle dans votre vie, vous décharger de cela, vous guérir, mais il y a un mal plus important que cela. Et je ne peux pas vous laisser partir sans vous avoir parlé de ce mal. Je vous ai dit tout à l'heure en préambule que une situation de la famille et de cette femme, nous nous retrouvons dans les mêmes situations aujourd'hui. Lorsqu'on regarde de près, on réfléchit un peu et puis qu'on demande à Dieu de nous éclairer, on se rend compte que ce soit dans notre vie de famille ou que ce soit dans notre vie tout seul, on est confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés. Ça veut dire que il y a un agent dans le monde qui continue de perturber la vie de l'homme, la vie de la société. Malgré tout ce qu'on peut avoir fait comme découverte, etc. Et je voudrais vous inviter, je vais le lire rapidement, hein, ou je peux le lire pour vous. Hein. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, verset 2, je vais le lire. « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, c'est-à-dire la foi de ses amis qui l'ont amené jusque-là, dit au paralytique, vous voyez combien votre foi est la conséquence sur la vie de quelqu'un que vous aimez. Et il dit, lorsque le Seigneur a vu leur foi, il dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais quand ses amis l'ont amené là, ce n'est pas pour le pardonner péché. C'est pour qu'il soit guéri. Mais le Seigneur lui dit d'abord, tes péchés sont pardonnés. Alors quelques scribes, c'est-à-dire responsables religieux, se dire en eux-mêmes, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant la pensée, il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, écoutez bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner des péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Voilà, et c'est de ce mal dont je veux terminer cet après-midi. Le péché est dans le monde, et les situations que vit le monde sont les conséquences de la présence du péché. Il faut donc régler ce problème du péché. Aujourd'hui, quand on soigne un malade, les médecins vont lui dire, vous allez faire des analyses. On cherche à savoir quel est le mal. Et puis, on va traiter ce mal. Mais, en attendant, on va lui donner quand même un traitement qui va faire baisser la température, qui va l'apaiser, le calmer, etc. Mais ce n'est pas ça qui guérit. Et entre-temps, il cherche à savoir quel est le mal. Parce que si on n'a pas guéri l'origine du mal, mais qu'on n'en a soigné que les conséquences, le problème va revenir. Régler le problème du péché dans votre vie. Oui, je le répète. Régler le problème du péché dans votre vie. Ça veut dire quoi? Eh bien, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et s'il est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, le péché amène la mort. La Bible nous dit également que tous ont péché, tous, sans exception. Voilà. Et ils sont privés de la présence de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Je voudrais vous amener vers là où Dieu a tout accompli par amour pour nous. Et les frères l'ont cité tout à l'heure dans leur témoignage, que Christ à la croix a tout accompli pour nous. Son sang a été versé afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et c'est lui-même qui a dit, je suis venu pour ouvrir un temps de grâce. Et ce temps de grâce s'est ouvert à la croix. Et dans la Bible, il nous rapporte ici une année de grâce, une période de grâce. Et une année, ça commence au 1er janvier et ça se termine au 31 décembre. Nous allons vers la fin de cette période, mais nous sommes encore dans ce temps où cet après-midi, nous pouvons vivre la grâce d'être pardonnés de nos péchés, de régler ce problème du péché. Et c'est ce vers quoi je vous invite cet après-midi, quand Jésus va dire à cette femme, « Va et sois guérie de ton mal alors qu'elle est déjà guérie dans son corps. » C'est ce qu'il va dire à cet homme paralytique, « Tes péchés sont pardonnés parce que pour le Seigneur, la priorité est donnée à notre éternité. » Dieu ne veut pas que nous périssons. Et il a donné sa propre vie. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant les hommes, le monde, avec lui-même. Mais cette réconciliation ne peut se faire que si nous-mêmes nous acceptons, nous reconnaissons que Jésus a pris notre place, nous reconnaissons le sacrifice de Christ. Et même si on n'a pas tout compris, mais on vient à la croix et on dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je veux maintenant vivre cette grâce, ce temps de grâce. C'est simple, voyez, c'est tellement simple et nous tellement compliqué. Mais c'est simple, c'est si simple que ça. Voilà, c'est une simple prière. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mon passé. Je veux maintenant vivre une vie nouvelle. Voilà. Et si l'éternité s'ouvrait tout à l'heure ou demain pour vous, vous êtes dans l'éternité avec Dieu. C'est simple. Voilà. Il n'y a pas une question de ressentir ou de... Non, non, non. Par la foi. Ta foi t'a sauvé, dit-il à cette femme. Cet après-midi, je voudrais vous appeler à faire un acte de foi. et puis on va prier le Seigneur. On priera les malades pour les malades après, mais je voudrais inviter maintenant ceux qui voudraient faire un acte de foi de s'approcher de Dieu et nous allons prier le Seigneur. Voilà, si vous voulez qu'on prie pour vous, voilà, que je prie pour vous en cet instant même, parce que vous voulez faire cette démarche de vous approcher de Dieu, eh bien, je vous inviterai simplement à lever la main et nous allons prier le Seigneur. Voilà, si cet après-midi, vous ressentez que Dieu vous a parlé et que vous voulez régler le problème du péché, je vous invite tout simplement à lever votre main et nous allons prier le Seigneur. Ça, c'est une affaire entre vous et Dieu. Alléluia. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore, c'est un temps de grâce. Et nous croyons que tu es là, présent au milieu de nous, et que ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu veux le faire encore aujourd'hui. Et nous voulons vraiment nous attendre à toi. Vois celui qui est encore séparé de toi à cause de ses péchés et de ses iniquités, et accorde-lui la grâce cet après-midi. Vraiment de saisir par la foi qu'à la croix tu as tout accompli et que tu l'aimes, Seigneur, comme tu aimes chacun d'entre nous. Seigneur, prions que le Saint-Esprit puisse convaincre chacun à vraiment s'approcher de la croix afin que quand il repart de ce lieu, il repart en paix. C'est toi qui es le Dieu de paix. Et tu as dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne, mais cette paix qui nous vient de toi, elle est au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer parce qu'elle vient d'en haut, du trône de gloire de notre Dieu. Béni, là où les personnes qui cet après-midi font cet acte de foi vers toi et donne-leur, Seigneur, de saisir par la foi dans leur cœur que tu as pardonné leurs péchés, que tu as inscrit leur nom dans ton livre de vie et que maintenant, dès cet instant, Seigneur, tu es leur Père et ils sont tes enfants. Nous te rendons grâce, Seigneur, et cela au nom de Jésus. Amen.